en colloque. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour. Louis-Ferdinand Destouches, plus connu sous le nom de plume Céline, a toujours suscité les passions. Adulé pour son style, détesté pour ses opinions politiques, il ne laisse en tout cas personne indifférent. Frédéric Vitoux de l'Académie française, spécialiste de l'œuvre de l'écrivain, a tenu une discussion sur le thème de Céline, médecin et écrivain, à l'Académie nationale de médecine lors de la journée du livre en septembre 2007. Dans cette communication que nous allons vous retransmettre dans quelques instants, Frédéric Vitoux répond aux questions de Jacques-Louis Binet, secrétaire perpétuel de l'Académie nationale de médecine, ainsi qu'à son confrère Yves Pouliquen de l'Académie française. La prise de parole de Frédéric Vitoux est introduite par une interview de Céline, répondant à la question de la place du roman dans la société actuelle, un document sonore exceptionnel. Cette discussion entre académiciens est également ponctuée de lectures d'extraits de Voyage au bout de la nuit, premier roman de l'écrivain publié en 1932, des lectures qui permettent d'illustrer les explications de Frédéric Vitoux. Une correspondance entre Céline et François Mauriac figure également parmi les documents afin de donner quelques clés de connaissance quant au caractère même de l'écrivain. Sans plus tarder, écoutons l'extrait sonore de Céline qui introduit la communication de Frédéric Vitoux. La voix que vous allez entendre est celle de Jacques-Louis Binet, maître de cérémonie de la journée du livre.
Alors, dans un premier temps, vous avez un enregistrement de Céline parlant du roman.
Quand je lis un livre, quand je vois un livre, on me demande ce que je fais. Ben, je regarde un livre, ben, j'ai l'impression de gens qui font des grimaces. Ils font des singeries, tout à fait inutiles. Ils ne vont pas directement dans le sujet. Ils tournent autour, ils s'avancent des chaises, ils font des petites grimaces, ils font des prologues, mais ils ne vont pas directement au nerf, n'est-ce pas? À l'émotion, ça, ils n'y vont pas du tout. Alors, voilà, moi, pour te dire, ben, je regarde les romans de mes contemporains, ben, je dis que ça signifie déjà du travail, mais du travail inutile. Voilà ce que j'en pense. Et alors, parce que, ils ne sont pas à la mesure de l'époque, ni dans le temps de l'époque. Et le temps de l'époque, eh ben, mon Dieu, c'est un temps où il faut tenir compte que le roman, puisqu'il s'agit de roman, puisque c'est là-dessus qu'on me demande de donner ma pensée, ben, le roman n'a plus la mission qu'il avait. Il n'est plus un organe d'information. Du temps de Balzac, on apprenait la vie d'un médecin de campagne dans Balzac. Du temps de Flaubert, la vie de l'adultère dans Bovary, etc., etc. Maintenant, nous sommes renseignés sur tous ces chapitres, énormément renseignés, et par la presse, et par les tribunaux, et par la télévision, et par les enquêtes médico-sociales. Oh, il y a des histoires. Il y en a, avec des documents, des photographies. Oh, mais il n'y a plus besoin de tout ça. Je crois que le rôle documentaire et même psychologique du roman est terminé. Voilà mon impression. C'est une impression. Et alors, qu'est-ce qui lui reste? Ben, il lui reste pas grand-chose. Il lui reste le style.
Pour introduire, évidemment, une discussion sur Céline et Voyage au bout de la nuit, et d'ailleurs, la guerre et la misère, c'est deux thèmes qui correspondent tout à fait aux problématiques et aux obsessions céliniennes. Mais pour vous montrer un peu les rapports entre le Céline, je dirais, écrasé par la vie, sensible à l'urgence de la souffrance, le Céline écrivain, j'aimerais vous lire une lettre peu connue, que je trouve passionnante, qui est une lettre écrite sur les services en tête du dispensaire municipal de Clichy, probablement fin 1932, elle n'est pas datée, adressée à François Mauriac. Céline vient de publier, à l'automne 1932, son premier roman, Voyage au bout de la nuit, qui a un écho exceptionnel, même s'il rate le prix Goncourt, il fait l'événement de l'actualité littéraire de cette époque. Et sans doute, François Mauriac est le plus grand, ou le plus célèbre, ou le plus notable des romanciers de l'époque, a dû écrire une lettre à Céline, et Céline lui répond. Et c'est quand même assez étonnant de voir un médecin, le docteur Destouches, médecin au dispensaire de Clichy, encore inconnu dans le monde littéraire, qui apparaît seulement, écrire avec une telle liberté à celui qui est l'un des papes de la littérature de cette époque. Et voilà ce qu'il lui dit, et je trouve cette lettre très instructive pour montrer précisément le caractère de Céline. « Monsieur, vous venez de si loin pour me tendre la main qu'il faudrait être bien sauvage pour ne pas être ému par votre lettre. que je vous exprime d'abord toute ma gratitude un peu émerveillée pour un tel témoignage de bienveillance et de spirituelle sympathie. Rien, cependant, ne nous rapproche. Rien ne peut nous rapprocher. Vous appartenez à une autre espèce, vous voyez d'autres gens, vous entendez d'autres voix. Pour moi, Simplet, Dieu, c'est un truc pour penser mieux à soi-même et pour ne pas penser aux hommes, pour déserter en somme superbement. Voyez combien je suis argileux et vulgaire. Je suis écrasé par la vie. Je veux qu'on le sache avant d'en crever. Le reste, je m'en fous. Je n'ai que l'ambition d'une mort peu douloureuse, et il ajoute en marge, mais bien lucide, et tout le reste, c'est du yo-yo. Bien sincèrement, je vous prie, des touches, Céline. Je trouve cette lettre assez étonnante par sa désinvolture, par ce sentiment d'écrasement de la vie que Céline éprouve, par cette exigence aussi qu'il a de lucidité par rapport à cet écrasement, par rapport à cette pesanteur organique et métaphysique aussi qu'il sent peser sur lui. Et je pense que ça peut être une introduction comme une autre à notre conversation.
Le premier point de notre conversation sera la guerre. D'abord, vous allez l'entendre, vous allez entendre Michel Simon réciter un texte de Céline sur la guerre, comment il a été engagé dans l'armée française.
Vous n'êtes-il pas que, juste devant le café où nous étions attablés, un régiment se met à passer, et avec le colonel par devant, sur son cheval. Et même qu'il avait l'air bien gentil et richement gaillard, le colonel. Moi, je ne fis qu'un bond d'enthousiasme. Je vais voir si c'est ainsi que je crie à Arthur. Et me voici parti m'engager, et au pas de course encore. T'es rien con, Ferdinand, qui me crie, lui, Arthur, au retour, vexé sans aucun doute par l'effet de mon héroïsme sur tout le monde qui nous regardait. Eh, ça m'a un peu froissé qu'ils prennent la chose ainsi. Mais ça ne m'a pas arrêté, j'étais au pas. J'y suis, j'y reste, que je me dis. On verra bien, et navet, que j'ai même encore eu le temps de lui crier avant qu'on tourne la rue avec le régiment derrière le colonel et sa musique. Ça s'est fait exactement ainsi. Alors, on a marché longtemps. Il n'y en avait plus qu'il y en avait encore des rues. Et puis, dedans, des civils et leurs femmes qui nous poussaient des encouragements et qui dansaient des fleurs, des terrasses devant les gares, des pleines églises. Ah, il y en avait des patriotes. Et puis, il s'est mis à y en avoir moins, des patriotes. La pluie est tombée, et puis encore de moins en moins. Et puis, plus du tout d'encouragement, plus un seul, sur la route. Ah, nous n'étions donc plus rien qu'entre nous, les uns derrière les autres. La musique s'est arrêtée. En résumé, que je me suis dit alors, quand j'ai vu comment ça tournait, c'est plus drôle. Mais c'est tout à recommencer. J'allais m'en aller. Mais trop tard. Ils avaient refermé la porte en douce derrière nous, les civils. On était faits comme des rats. Une fois qu'on y est, on y est bien. Ils nous firent monter à cheval, et puis au bout de 2 mois qu'on était là-dessus, remis à pied. Peut-être à cause que ça coûtait trop cher. Enfin, un matin, le colonel cherchait sa monture. Son ordonnance était partie avec. On ne savait où, dans un petit endroit sans doute, où les balles passaient moins facilement qu'au milieu de la route. Car c'est là précisément qu'on avait fini par se mettre, le colonel et moi, au beau milieu de la route. Moi tenant son registre où il inscrivait des ordres. Tout au loin, sur la chaussée, aussi loin qu'on pouvait voir, il y avait 2 points noirs, au milieu, comme nous. Mais c'était 2 Allemands, bien occupés à tirer depuis un bon quart d'heure. Lui, notre colonel, savait peut-être pourquoi ces 2 gens-là tiraient. Les Allemands aussi, peut-être, qui savaient. Mais moi, vraiment, je savais pas. La guerre, en somme, c'était tout ce qu'on ne comprenait pas. Ça ne pouvait pas continuer. Il s'était donc passé dans ces gens-là quelque chose d'extraordinaire que je ne ressentais, moi, pas du tout. J'avais comme envie, malgré tout, d'essayer de comprendre leur brutalité. Mais plus encore, j'avais envie de m'en aller. Ah, énormément, absolument. Tellement tout cela m'apparaissait soudain comme l'effet d'une formidable erreur. Dans une histoire pareille, il n'y a rien à faire, il n'y a qu'à foutre le camp, que je me disais après tout. Au-dessus de nos têtes, à 2 millimètres, à 1 millimètre peut-être des tempes, venaient vibrer l'un derrière l'autre ces longs fils d'acier tentant que tracent les balles qui veulent vous tuer dans l'air chaud d'été. Jamais je ne m'étais senti aussi inutile parmi toutes ces balles et les lumières de ce soleil. une immense, universelle moquerie. Je n'avais que 20 ans d'âge à ce moment-là. On est puceau de l'horreur comme on l'est de la volupté. Comment aurais-je pu me douter, moi, de cette horreur en quittant la place Clichy? Qui aurait pu prévoir, avant d'entrer vraiment dans la guerre, tout ce que contenait la sale âme héroïque et fainéante des hommes? À présent, j'étais pris dans cette fuite en masse, vers le meurtre en commun, vers le feu. Ça venait des profondeurs et c'était arrivé.
Alors, un autre témoignage qui est toujours de Céline sur la guerre. Et voilà ce qu'il écrit, 27 octobre 14. « Oui, tout à fait lâche, Lola. » Lola, c'est sa maîtresse américaine. « Je refuse la guerre et tout ce qu'il y a dedans. Je ne la déplore pas, moi. Je ne me résigne pas, moi. Je ne pleurniche pas dessus, moi. Je la refuse tout net, avec tous les hommes qu'elle contient. Je ne veux rien avoir à faire avec eux, avec elle. » Serait-il 995 millions et moi tout seul? C'est eux qui ont tort, Lola, et c'est moi qui ai raison, parce que je suis le seul à savoir ce que je veux, de point, je ne veux plus mourir. Alors, dans le texte que va vous commenter maintenant Frédéric Vitou, voilà une sorte de réponse où est décrit sa guerre. Louis Destouches blessé près d'Ypres le 27 octobre 1914. Le général commandant en chef a conféré la médaille militaire le 24 novembre 1914 à Destouches Louis, maréchal de logis. Et la citation est la suivante. S'est offert spontanément pour porter sous un feu violent un ordre que les agents de liaison de l'infanterie hésitaient à transmettre, a porté cet ordre et a été grièvement blessé au cours de sa mission. Voyez l'opposition entre ce qu'il a fait et ce qu'il a écrit. Alors, Monsieur Vitou, à vous de jouer maintenant et de développer ce thème.
Ben c'est un peu compliqué parce que, évidemment, le thème de la guerre est fondamental chez Céline, fondamental à plus d'un titre. Je dois préciser que lorsqu'il est soldat, Céline, il est très loin d'être le médecin qu'il sera plus tard, puisqu'il n'est qu'un jeune homme qui s'est engagé volontaire 2 ans avant la guerre de 14, en 1912, après avoir fait des petits métiers. Il n'a que son certificat d'études, il n'a même pas son bachot. Il s'est engagé dans la cavalerie lourde chez les cuirassiers et il est en effet blessé en octobre. Il est intéressant de savoir que ce qu'il connaîtra de la guerre de 14, ce n'est évidemment pas l'horreur absolue des tranchées de Verdun de 1916 et après. C'est encore relativement une guerre de mouvement, une guerre de cavalerie, une guerre de déplacement. Et c'est là qu'il sera blessé, en octobre 1914. Pourquoi c'est compliqué? Parce que à la fois, la guerre est un puissant éducateur pour Céline et va contribuer à lui donner ce regard cliniquement désespéré à la fois sur l'horreur, sur la mort et aussi désespéré sur la condition humaine et sur l'absurdité de la condition humaine. Et là, je crois que cette vision qu'il a est une vision qui nourrit totalement « Voyage au bout de la nuit », qui nourrit cet antimilitarisme forcené du texte, ce qui fait d'ailleurs qu'en 1932, lorsque ce livre et son premier roman, « Voyage au bout de la nuit », qui dans ce début évoque en effet assez longuement les combats de 1914, beaucoup de gens bien pensants sont horrifiés par ce regard terriblement pacifiste, et on arrive au paradoxe que, si certains intellectuels d'extrême gauche, comme Louis Aragon, comme l'Humanité, etc., défendent beaucoup ce livre, en effet, certains anarchistes de droite le défendent aussi. On voit Léon Daudet défendre ce livre. Léon Daudet, dont on connaît les opinions nationalistes, etc., voire antisémites, bien sûr, avec l'affaire Dreyfus. Et quelqu'un dit à Léon Daudet, mais enfin, pourquoi vous défendez un livre aussi férocement antimilitariste? Et Léon Daudet a cette réponse assez belle. L'armée française, je lui dis merde quand il s'agit de littérature. Et Léon Daudet va pousser ce livre au prix Goncourt. Malheureusement, il n'obtiendra pas gain de cause. Le prix Goncourt échappera à Céline. Donc, il y a chez Céline, je reviens à la guerre, ce côté formateur du désespoir, si j'ose dire. Et puis aussi, et ce qui expliquera d'ailleurs l'évolution de Céline, et on l'a senti dans les extraits qui ont été lus, un pacifisme absolu, qu'il maintiendra jusqu'au bout et qui, pour une part, mais c'est peut-être, c'est pas le sujet évidemment de notre entretien, expliquera pour une part toutes ces dérives qui précéderont la Deuxième Guerre mondiale et en particulier son antisémitisme. Donc, je crois que la guerre, j'insiste là-dessus, lui donne ce sentiment de la convulsion, de l'horreur, de l'écrasement donc, qu'on a vu tout à l'heure dans cette lettre à Mauriac, et en même temps, sans doute, lui donne ce souci de comprendre et de voir ce qui est au cœur de la souffrance et de l'homme. Et ce n'est que après la guerre qu'il passera son bachot et fera des études médicales accélérées, comme tous les anciens combattants, et qui lui permettront de devenir le médecin qu'il est. Mais vous allez vous en rendre compte probablement au cours de cette conversation que nous allons avoir, parler de Céline est très délicat. Pourquoi ? Non pas à cause de telle ou telle imprécation célinienne, ça on peut toujours en parler, c'est que on est sans arrêt avec Céline dans une perpétuelle contradiction. Chaque fois que l'on avance quelque chose sur Céline, on a le contraire. On a vu des propos terriblement antimilitaristes de Céline et en même temps, sa conduite a été une conduite héroïque. Quand on va parler de Céline, Céline médecin et écrivain, on va accentuer le côté évidemment compassionnel de cet écrivain. Et puis en même temps, on sait que cet écrivain a lié son œuvre à des cris de violence et de haine parmi les plus insoutenables. On va parler du côté concret, physique, palpitant, convulsif de l'homme malade qui l'obsède. Et en même temps, il y a un rêve chez Céline, c'est le rêve de la légèreté, de la féerie que vont incarner, par exemple, les danseuses ou les animaux. On va parler d'un Céline réactionnaire, d'une certaine manière, et on pourrait parler d'un Céline formidablement novateur, stylistiquement parlant. On pourrait parler d'un Céline précieux et d'un Céline naturaliste, d'un Céline aristocratique et d'un Céline de conditions modestes, etc. Donc, je n'insiste pas, mais je voulais simplement mettre le doigt sur ces perpétuelles contradictions qui nourrissent Céline. Il y a une phrase qui m'a toujours beaucoup frappé, c'est celle de Dostoïevski qui disait « Le secret même de la psychologie, c'est la coexistence en chaque individu de sentiments contradictoires. » Et je pense que quand on est romancier, ce qui est intéressant, c'est de montrer comment un héros est toujours la proie de sentiments contradictoires. Et avec Céline, on est vraiment aux premières loges, si j'ose dire, car on va être sans arrêt dans des perpétuelles tensions et contradictions. Et la guerre est l'une de ces contradictions et l'une de ces formations-là.
Des impressions d'Afrique, des études de médecine et de la thèse. Impressions d'Afrique... J'ai pris une phrase, qui est peut-être pas la meilleure, de « Voyage au bout de la nuit ». Moi, j'avais la vocation d'être malade, rien que malade. Les études de médecine, elles, furent très conventionnelles. Il a épousé un bon moyen pour arriver, c'est-à-dire la fille d'un patron. Il est arrivé très vite. Petite faculté de Rennes, pardon Michel Bourrel, à ce moment-là, c'était une petite école. Maintenant, c'est devenu un grand lieu. Et il a été médecin, donc, finalement, assez facilement. Et ça, vous nous direz tout à l'heure, grand silence sur cette période. Et puis la thèse, alors là, c'est intéressant, parce qu'on va voir l'opposition, plutôt la dualité, la coexistence entre le médecin et l'écrivain. Une partie des réponses de Frédéric Vitoux, à propos d'impression d'Afrique, vous écrivez « Le voilà, le véritable apprentissage de la médecine, le goût, la nécessité de soigner, de soulager les souffrances qui l'entourent. » Alors, si vous pouvez nous parler de ce qu'il a vécu dans ces hôpitaux abominables, d'ailleurs d'Afrique à ce moment-là.
Oui, c'est-à-dire que, pour faire bref, donc on a vu Céline blessée grièvement à l'automne 1914, Céline qui va être longuement soignée, il prétend qu'il a été trépané, sans doute pas, mais il va garder de ses blessures des séquelles graves, des bourdonnements, des maux de tête qui vont conditionner pour une part vraiment sa vie et cette maladie et ce délire célinien. Céline ensuite est réformée et avant d'entreprendre ses études de médecine, à la fin de 1916, il accepte un poste en Afrique, au Cameroun, dans une exploitation forestière. C'est un jeune homme encore, il est en 1916, il a 24 ans, hein, il a 22 ans, pardon, et il part en Afrique, mais pas du tout comme médecin, il n'a même pas son bac, il n'a rien, il part en Afrique et comme exploitant pour travailler dans une exploitation forestière au Cameroun. Et là, Il voit, après l'expérience de la guerre, il a une deuxième expérience, c'est l'expérience de la vie coloniale, qu'il va dénoncer aussi dans Le Voyage au bout de la nuit, avec une âpreté, une violence, une ironie absolument terrible. Toutes ces raisons qui font encore une fois que Le Voyage au bout de la nuit a été salué à l'époque par des tas d'intellectuels qui n'étaient pas d'extrême droite, comme Trotsky par exemple, qui écrira des pages admirables sur Voyage au bout de la nuit. Et il va voir justement les fièvres, les maladies, le paludisme, l'écrasement des Noirs qui travaillent dans les plantations. Et on le voit par ses lettres à des amis auxquels il écrit. Il cherche à voir comment on peut soulager toutes ces souffrances, toute cette horreur, toute cette misère qui rôde, qui grouille, qui est autour de lui. Et je pense que après l'expérience de la guerre, l'expérience de l'Afrique et de ses souffrances et de ses misères et de ses fièvres et de je dirais aussi même cette expérience du délire que peut donner la fièvre va être un puissant ferment pour lui, à la fois comme romancier, bien sûr, puisqu'encore une fois, ça va inspirer son premier grand livre, mais aussi comme médecin. C'est très curieux, quand il était jeune soldat avant la guerre, il écrit dans un petit cahier qui s'appelle les carnets du cuirassier des Touches, qui est une sorte de petit carnet où il note ses états d'âme, comme beaucoup d'adolescents le font. Il écrit « J'espère traverser de grandes crises, de grandes épreuves, car je veux comprendre et connaître ». Donc il a l'impression déjà que par la souffrance, c'est exactement la phrase sur la maladie, il a l'impression que la souffrance, que la maladie est le meilleur pédagogue possible pour essayer de comprendre la nature humaine dans ce qu'elle a de plus vulnérable. Et ça, c'est le côté, je dirais, au sens littéral du terme, compassionnel de Céline, souffrir avec. Et peut-être que si l'on a souffert soi-même, on peut mieux comprendre la souffrance des autres. Et je pense en effet que l'Afrique, sur ce plan-là, a été encore une fois, j'insiste, un élément profondément formateur pour Céline, au-delà du propos politique, bien sûr, que encore une fois, certains ont souligné à la parution de Voyage au bout de la nuit pour s'en indigner ou pour l'en approuver.
Le silence sur les études de médecine, il n'avait pas le temps, il travaillait.
Bah, si vous voulez,
la vie rangée à Rennes, le mariage.
Oui. Alors, c'est très curieux parce qu'en fond, dans l'œuvre de Céline, il y a à la fois une grande cohérence et une évolution. La grande cohérence, c'est le fait que tous ses ouvrages s'inspirent plus ou moins de son expérience biographique. C'est pas un romancier de la pure imagination. C'est l'anti-Alexandre Dumas, par exemple. Et l'évolution, c'est d'abord une évolution stylistique dans un style de plus en plus éclaté, féerique, détaché de toute cohérence grammaticale, et aussi le fait qu'à mesure qu'il va écrire, ses livres vont se rapprocher de plus en plus de son expérience biographique, si bien qu'à la fin, le héros sera lui Céline, alors que dans son premier livre, Voyage au bout de la nuit, il a encore un nom, un prête-nom, Bardamu, et là, il pratique en effet de nombreuses ellipses, et la vie bourgeoise, la vie rangée, la vie traditionnelle de Céline, cette vie qu'il va connaître grosso modo au lendemain de la guerre, entre 1919 et 1924, au moment de c'est une vie qu'il évoquera peu, parce que elle lui semble pas intéressante. C'est pas une vie de souffrance, c'est pas une vie de dénonciation de la misère, c'est pas une vie de l'urgence, c'est pas une vie de la convulsion, c'est pas une vie du délire. C'est la vie d'un garçon qui, au lendemain de la guerre, s'est engagé comme volontaire pour la Fondation Rockefeller pour faire des missions en Bretagne pour lutter contre la tuberculose. Alors il présente des films, il donne des petits conseils d'hygiène aux populations, de se laver, etc., de ne pas boire trop d'alcool pour les enfants, etc., etc. Et c'est là où il va connaître une jeune fille, qui est la fille en effet du directeur de médecine de l'école de Rennes, Athanase Follet. Et cette jeune fille, Edith Follet, très très traditionnelle, voilà, il va l'épouser. D'ailleurs, c'est curieux parce que j'ai bien connu Edith Follet jusqu'à sa mort. Elle est morte assez âgée, à 94 ans. Et quand elle me parlait de Céline, et souvent je l'avais mis en rapport avec la deuxième femme de Céline, qu'il avait connue en 36, qui était une danseuse et qui avait connu le Céline dont on a un peu l'image, disons, pour parler vite, clochardisant, un précateur. On s'en est bien rendu compte dans cet enregistrement de Céline assez saccadé. Et quand chacune de ces deux femmes évoquait, elles s'aimaient beaucoup d'ailleurs ces deux femmes, et évoquaient Céline, c'était deux hommes différents. Édith Follet parlait, oh, il était beau Céline, il était si dandy avec ses vestes tweed et ses parfums, etc. Et l'autre avait vu une sorte d'homme débraillé, clochardisant, et c'était étonnant de voir à quel point il y avait deux Céline que chacune avait épousées, ou deux Louis des Touches que chacune avait épousées. Et le premier Louis des Touches, le Louis des Touches marié avec cette jeune femme de la bonne bourgeoisie bretonne, était pas du tout le Céline qui pouvait avoir un écho dans l'œuvre de Céline. D'où le silence. Et dans Voyage au bout de la nuit, qui est donc une transposition, mais très transposée, de sa vie, en effet, en deux lignes, on passe du Céline de l'Afrique, du Céline de la guerre, du Céline même de la, avec une erreur, mais peu importe, de la, qui découvre l'Amérique, la vie des banlieues, des usines, Ford à Détroit, de la taylorisation, de l'oppression de l'homme. En deux lignes, on raccorde, si je puis dire, avec le Céline médecin des pauvres, le Céline médecin de banlieue, le Céline médecin de dispensaire. Et c'est très curieux de voir à quel point Céline fait, en effet, l'impasse sur ce qui est sans histoire, puisque c'est sans malheur.
Autre moment important, c'est sa thèse. Sa thèse a pour thème le travail de Semmelweis. Vous savez qui c'est? C'est le gynécologue autrichien qui a demandé à ses collaborateurs de se laver les mains avant de faire des accouchements, puisque les mêmes accoucheurs autrichiens faisaient des autopsies. Et que bien évidemment, ne se lavant pas les mains, ils contaminaient les femmes au moment de l'accouchement, donc des catastrophes dans cette clinique de Vienne. Alors le fait de demander de se laver les mains, nous sommes avant l'ère pasteurienne. C'est un peu le mythe. C'était, on savait pas très bien, on parlait pas de microbes, on parlait de je sais pas quoi. Bon. Il s'est fait renvoyer très vite, et c'est devenu, il a écrit une thèse superbe, qui est devenue un grand thème. Alors, vous écrivez à propos de cette thèse, c'est très intéressant parce qu'on voit la coexistence, l'opposition, en même temps, deux travaux. Et vous écrivez, travail d'écrivain, de styliste, de visionnaire, qu'accomplissait-il alors? Ses derniers pas d'étudiant en médecine ou ses premiers pas dans la carrière littéraire? Alors, ils ont tous lu Semmelweis ici. Faites comme s'ils avaient lu. C'est complètement faux. Mais faisons comme si nous étions tous très érudits.
Je suis persuadé que devant l'éminente assemblée qui me rend très complexé, parce que je suis peut-être le seul ici d'une parfaite ignorance médicale devant des éminences qui sont à côté de moi à cette table et devant moi, je me sens effectivement très très gêné. Je me permettrai certainement pas de parler de Semmelweis, du médecin Philipp Ignaz Semmelweis. Je ne sais pas l'extrême rigueur de la thèse de Céline sur Semmelweis. Je crois qu'elle est sérieuse, je crois qu'il y a aussi beaucoup d'exagération sur certains points, peu importe. Mais je pense en tout cas que avec Semmelweis, il a trouvé, en effet, il a fait une thèse de médecine qui a beaucoup impressionné ses professeurs, qui étaient, comme le sont les médecins, aussi bien des gens d'intuition littéraire que de qualité médicale, évidemment. Et je pense que cette thèse a beaucoup impressionné ses professeurs par ses qualités littéraires, ses qualités de recherche étant sans doute bonne, mais assez rapide. Mais là, en effet, je pense que ce dernier acte qui conclut ses études médicales me paraît une ouverture déjà évidente sur la littérature, car c'est vraiment déjà, on a le style célinien, cette rapidité, ce côté visionnaire, cet attachement à l'homme seul contre tous, à l'homme qui pressent des vérités et qu'il est le seul à pressentir, à cet écrasement de la vie dont j'en reviens toujours là, qui est celui de Semmelweis, qui intuitivement comprend que si les hommes se désinfectent, parce que le mot désinfection n'est peut-être pas valable au début du 19e siècle à Vienne, mais que si les gens se lavent les mains, il y a moins de fièvre puerpérale dans les hôpitaux et dans les cliniques d'accouchement de Vienne, et qui n'y arrivent pas, et qui meurent finalement dans la folie un jour où ils se tailladent avec un scalpel dans une salle de dissection à Vienne, et qui va mourir dans des conditions absolument atroces. Et là, je crois, on a déjà un héros célinien, avec Philipp Ignaz Semmelweis. Et on a déjà un style célinien. Et dans une réimpression par la suite, après le succès de Voyage au bout de la nuit, donc Gallimard va publier pour la première fois en édition littéraire Soit de Noël, je crois, va republier la vie et l'œuvre de Philipp Ignaz Semmelweis, et il écrit une nouvelle préface pour cette édition, et ça c'est une phrase incroyablement célinienne qui s'adresse à lui aussi bien qu'à Semmelweis. Il dit en substance, je me souviens plus la phrase par cœur, il dit « Tout se paie ici-bas, le bien comme le mal, le bien c'est toujours plus cher, forcément. » Et là je pense qu'on a vraiment ce sentiment très curieux d'un Céline à la fois compassionnel, j'ai parlé et encore une fois d'un Céline d'une violence insoutenable certains de ses écrits d'avant-guerre et ses pamphlets antisémites, et en même temps d'un Céline totalement coupé du monde et se croyant le seul persécuté. Et alors, ça, c'est Semmelweis.
Alors, il continue à écrire un peu en médecine, si je peux dire, dans un mauvais français. Dans des petites revues, il publie des choses, il travaille pour un laboratoire. Il n'est pas du tout éloigné de la vie médicale. Il continue en même temps, c'est la médecine à Rancy. Rancy, c'est un mot qu'il a inventé. C'est pas le Rancy, c'est en fait Clichy, où il est médecin, où il est en même temps, il travaille dans un dispensaire, et c'est devenu, dans Voyage au bout de la nuit, Rancy. Alors, voilà ce qu'il écrit sur la banlieue. Il y a d'immenses descriptions de la banlieue. Quand on habite à Rancy, on ne se rend même plus compte qu'on est devenu triste. Et votre réponse à vous allez dans son sens. La banlieue où il était né, il la retrouvait, Louis, Courbevoie, Clichy, même combat, même ennui. Ces descriptions de la banlieue sont à la fois, sauf à la fin, il y a un peu de romantisme quand apparaît la scène, tout à la fin, mais elles sont sinistres comme c'était. C'était nos banlieues sont, j'ose pas dire, presque moins sinistres, non?
Oui, je crois qu'il y a une vision assez désespérante du Céline médecin comme du Céline écrivain. Le Céline médecin, je crois qu'il faut le préciser, n'a jamais été, ou pratiquement très très peu de temps dans sa vie, il a été un médecin qui avait un cabinet. Ça a été essentiellement, Céline, un médecin de médecine sociale. Pendant longtemps, il a travaillé pour la Société des Nations, pour le service d'hygiène, où il emmenait des médecins voir ce qui se faisait en matière d'hygiène en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Italie, etc. Et puis, quand il va s'établir médecin, essentiellement, ce qui l'intéressera, c'est la médecine sociale, c'est-à-dire la médecine de dispensaire, et ce qu'il écrira, c'est toujours lié à la médecine sociale. Par ailleurs, pour la banlieue, je crois que la banlieue, dans ce pessimisme total de Céline, la banlieue, c'est son monde. En effet, il est né à Courbevoie, ça va l'obséder, Courbevoie. C'est un lieu de la banlieue, c'est ce no man's land entre la ville et la campagne. C'est là où on n'est ni dans le centre du monde, ni dans la fraîcheur, si j'ose dire, ou l'hygiène de la campagne. On est dans cet entre-deux un peu blême et qui l'obsède. Et il y a une phrase de Céline qui est assez belle, justement. Je crois que c'était à Léon Daudet. Il a fait la connaissance de Léon Daudet, comme de Lucien Descaves, comme de nombreux intellectuels. Encore une fois, j'insiste, de droite comme de gauche, après la parution de Voyage. Et à Léon Daudet, il écrit un jour une lettre, je crois que c'est début 1933, qui est très très intéressante. Il lui écrit à un moment donné, « Je ne me réjouis que dans le grotesque aux confins de la mort, tout le reste m'est vain. » Et je crois, ça c'est terrible comme phrase. « Je ne me réjouis », c'est souvent l'opposition entre la réjouissance, et c'est pas par hasard s'il dit aussi à un autre moment, « Mais est-ce que vous connaissez la fête de Bruegel ?» Et je crois qu'il y a ce côté un peu nordique, un peu flamand, ce côté à la fois kermesse et mort, grimacement, amusement et désespoir. Et ça, je pense que, avec ce génie de l'amplification du style célinien, j'ai parlé tout à l'heure d'un mot, j'ai évoqué un mot qui, je crois, est un des mots les plus déterminants pour Céline, en bien comme en mal, chacun peut le prendre comme il veut, c'est le mot de délire. Je crois que Céline est un délirant, profondément un délirant. Et c'est-à-dire, c'est un délirant, c'est-à-dire quelqu'un qui prend une réalité qui est toute proche de lui et qui la développe, elle se développe, elle s'accroît, elle grimace, elle devient à la fois éloquente et totalement irréelle. Et je crois que ce délire lui plaît. Et je pense que Quand il se compare à Bruegel, quand il dit qu'il n'aime que le grotesque aux confins de la mort, nous sommes là dans cette vision et dans ce style célinien du délire. Et je pense qu'il a trouvé dans la banlieue, dans celle qu'il a observée, dans celle qu'il a fantasmée aussi, parce que peut-être que la banlieue était peut-être pas aussi terrible que ça, je n'en sais rien, mais dans ces médecins, dans ces pauvres qui venaient au dispensaire, une sorte de matière incroyable pour écrire. Et en même temps, et c'est là où on est toujours dans la contradiction, c'est que dans le même temps où il jette ce regard d'une âpreté sans borne sur ces patients qu'il voit dans les dispensaires, dans le même temps, ce qu'il aime, ce qui l'obsède, ce qui sera même son rêve littéraire jamais accompli, c'est le contraire. Céline a un rêve qui est l'opposé de la banlieue. C'est la danse. J'en ai parlé tout à l'heure d'un mot. Il va d'ailleurs, en 1936, épouser une danseuse. Et ce qu'il veut écrire, c'est des arguments de ballet. Et il en écrit des arguments de ballet. Il en a écrit 7-8. Et son désespoir, un désespoir récurrent sur toute son œuvre, c'est de n'avoir jamais pu réaliser ou que soit monté sur une scène chorégraphique ses ballets. Et c'est sa tristesse incroyable. Voilà. Alors ça, c'était le contrepoids à la banlieue, le contrepoids à la misère, le contrepoids à cette médecine d'âpreté et de désespoir, puisqu'il dit, au fond, la seule vérité de ce monde, c'est la mort. Et il ajoute, il faut choisir, mourir ou mentir. C'est dans une lettre, je crois. Ça, c'est dans Voyage au bout de la nuit et dans une correspondance à Élie Faure, il lui dit, mais Élie, dès la naissance, dès l'ovule, l'homme n'est que le jouet de la mort. Donc c'est ça. Et puis d'un autre côté, il y a la danse. Il y a ce qui échappe à la pesanteur, ce jeu sur la pesanteur qui écrase l'homme, cet écrasement où l'homme redevient cadavre. Et d'un autre côté, cette aspiration à la pesanteur que symbolise la danse, que symbolise la féerie. D'ailleurs, il y a des livres de lui qui s'appellent Féerie pour une autre fois. Et que symbolise aussi, curieusement, l'amour qu'il a pour les animaux, pour son chat bébert, pour ses chiens, pour tout ce qui est gracieux, impeccable, léger, jusqu'à la mort. Et il dit toujours, les animaux, ils sont impeccables et jusqu'à la mort. Et ça, je crois que c'était ce balancement est fondamental chez Céline, vraiment fondamental.
Alors, ce balancement est d'autant important quand il décrit des malades. Bon, nous sommes en 32, avant 32, il n'y a aucun traitement en médecine. Un peu de digitaline, un petit quelque chose quand on a mal, un vague diurétique, c'est tout. Pas d'antibiotiques. Toute infection pouvait être mortelle. On mourait beaucoup par Claude Bernard. Il faut reprendre l'atmosphère de notre pays, enfin du monde, en 1931. Et on retrouve la mort, mais c'est comme si de temps en temps, le malade est content d'apprendre qu'il est malade, si je peux dire. L'hypertension artérielle du père Henrouille. Bon. Il lui apprend, le père Henrouille, il est paresseux, il fait pas grand chose, il a un peu mal à la tête, il est fatigué le soir, il a rien. Bon. Et puis, on lui prend sa tension artérielle, il est un peu au-dessus de la normale, il lui dit, vous avez une hypertension artérielle, et bien voilà ce qu'il écrit. Le médecin lui avait appris à trouver le chemin de sa mort à lui. C'est ce que vous venez de dire. Il allait mourir tout à fait autrement. Et, c'est pas du délire ce qu'il décrit. Il y a un texte qui est redit dans un disque de, comment il s'appelle, Lucchini, sur un avortement volontaire qui est à la limite de l'audible. À la limite, mais c'est vrai. Il y a une pauvre fille qui est enceinte, qui est chez elle, qui saigne comme c'est pas permis, alors on voit le sang sur le sol. On fait venir Céline. Il dit, il faut absolument qu'elle aille à l'hôpital, refus, parce que si elle va à l'hôpital, ce serait, en principe, l'hôpital est lié au secret professionnel, ce serait la honte de la famille, et elle meurt. Il y a un malade qui est atteint de septicémie, comme il est quand même assez savant, il va voir les gens de Pasteur, la numéro, sans doute un peu délirant, mais il n'y a pas d'antibiotique, vous pouvez trouver un germe, ça n'a strictement aucun intérêt. Puisqu'on ne sait pas comment lutter contre ce germe. De telle sorte que cette médecine qu'il décrit finalement est assez assez vrai. Alors, vous répondez à sa description, toujours dans l'hypertension du père Henry. Il préférait les bons vieux médicaments éprouvés et les règles d'hygiène élémentaire aux thérapeutiques plus modernes, plus chimiques, plus ambitieuses. Il était l'homme du bon sens, plus que de la science. Allez-y là-dessus, parce que là, c'est on vous attend.
Bah, écoutez,
ça vous intéresse énormément.
C'est le seul domaine où vous m'attendez et où, là, je ne risque pas d'être au rendez-vous vraiment, puisque je n'ai pas les éléments d'appréciation. Ce qui est certain chez Céline, c'est que, à la fois, et vous avez tout à fait raison de le souligner, si j'ai parlé du délire célinien, c'est ce qui aboutit à la fin, mais au début, il y a cette observation du réel, du concret, des cas cliniques, et ce qui fait que, à la fois, par exemple, il s'est intéressé à une époque un peu par curiosité intellectuelle à la psychanalyse, mais très vite, il a dit, revenons à la viande, revenons au concret, revenons au réel, revenons aux palpitations, aux souffrances, aux hémorragies. Et dans Voyage au bout de la nuit, vous avez raison, il y a des descriptions d'une crudité terrifiante, terrible des cas de maladie. Bon, sur le Céline médecin, le Céline médecin des pauvres, le Céline médecin de dispensaire, puis le Céline qui est un peu soignera après la guerre quand il reviendra en 51 en France et quand il s'installera à Meudon où il aura pendant quelques années des médecins, des patients qui viendront le voir, d'ailleurs sans se faire payer parce que ça n'intéresse pas. Céline n'est pas, et encore une fois j'insiste, il n'a pas fait des études médicales très approfondies. Il a fait des études médicales accélérées et je crois qu'il a, c'est plus un médecin, oui, je crois, de bon sens, de quelques règles d'hygiène. C'est un hygiéniste, Céline. Je me souviens, par exemple, il y a une anecdote que l'on m'avait racontée. Une femme, c'était pendant en 42, je crois, dont la fille était jeune, elle avait peur. La fille était un peu délurée et donc la mère avait très peur que la fille se devienne enceinte. Et elle disait, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce qu'il y a des médicaments pour calmer les ardeurs sexuelles de ma fille? Naturellement, il n'y avait probablement pas de médicaments. Mais Céline lui disait, écoutez, mettez-la dans un bain d'eau froide tous les soirs et ça ira beaucoup mieux. Et bon, on peut pas dire que ce sont des thérapeutiques d'une extrême rigueur médicale. Enfin, à moins que je me trompe, mais je ne le pense pas. Mais ça, c'était des réponses céliniennes. Bon, un bain de siège d'eau froide tous les soirs pour calmer les ardeurs de la demoiselle. Ou qui était peut-être plus demoiselle d'ailleurs, mais peu importe. Et je pense qu'on a là quelque chose qui relève en effet aussi bien de la psychologie que de la médecine. Quand il dit que le père Henry était content d'avoir quelque chose, c'est parce que souvent il avait compris que les gens souffrent de leur médiocrité et être malade, c'est une manière d'être singulier, de jouer un rôle, d'être intéressant. Et il avait assez bien compris ça, quand on nomme une maladie ou une absence de maladie, d'un seul coup le patient est réconforté et presque grandit en quelque sorte. Et donc il y a tout ce côté d'intuition psychologique, de rapport compassionnel au patient, qui était sans doute chez lui beaucoup plus développé que la propre technique médicale. Mais encore une fois, je le sais par des témoignages, je le sais par des gens que j'ai connus, que j'ai rencontrés, qui ont connu Céline et qui l'ont vu comme médecin, par le témoignage de son épouse, qui est toujours en vie d'ailleurs, qui Lucette Destouches, qui me parlait de Céline recevant des malades. Mais j'ai pas beaucoup d'autres éléments rigoureux médicaux, parce qu'encore une fois, j'insiste, je suis peut-être l'un des rares parmi vous à n'être pas médecin. Donc je ne peux pas trop développer, j'en suis désolé monsieur le professeur, mais je pense que c'est ça qu'il fallait dire, je pense. C'est ce côté, c'est ce rapport d'intuition psychologique et de compassion plus que de traitement très pointu. Je crois en plus que Céline est un pessimiste, Céline a une certaine méfiance vis-à-vis de la science toute puissante. C'est un passéiste, Céline. Donc c'est un homme qui préfère quelques raisonnements de bon sens à des thérapeutiques plus ciblées.
Mais même dans ses textes littéraires, c'est un grand clinicien. Ses livres pourraient paraître dans des les textes pourraient figurer dans des livres de sémiologie.
Oui.
Mais, une clinique que nous ne connaissons plus parce qu'elle était avant l'ère des médicaments, 1931. Est-ce que vous avez des questions à poser, Yves Pouliquen?
Le regard de Céline au travers de sa littérature est un regard de médecin, on ne peut pas l'oublier. Il y a quelque chose qui reste troublant, c'est la naissance de sa vocation médicale. Car il y a à la fois engagement dans la médecine et puis il épouse le directeur des études médicales de Rennes, ce qui fait presque une situation. Qu'est-ce que tu peux préciser sur ce plan-là ?
Je pense que là aussi, on est toujours dans la contradiction. Parce que d'un côté, il dira « Je n'ai pas toujours pratiqué la médecine, cette merde. » Il l'écrit. Bon, ce n'est pas très... Et d'un autre côté, il dira « Oh, la littérature... » J'ai fait la littérature pour gagner de l'argent, parce qu'il y avait un livre qui s'était sorti, qui s'appelait Hôtel du Nord, de Jeanne Dhaby. Ce livre avait eu beaucoup de succès, alors je me suis dit, j'en ferai bien autant. Alors je vais essayer de faire ça pour gagner de l'argent. Il faut évidemment ni croire le Céline qui dit, je n'ai pas toujours pratiqué la médecine, cette merde, c'est une boutade, ni évidemment le Céline qui dit, je fais de la littérature uniquement pour gagner de l'argent, parce qu'il y avait un certain Eugène Dabi qui avait écrit un très beau livre, s'appelait Hôtel du Nord en 1930, je crois, et j'en ferai bien autant. Donc, toujours, on est dans un jeu où il dit une chose et son contraire. Le côté clinicien est tout à fait exact. Céline est avant tout, et ça j'insiste, on pourrait même le dire sur tous les plans de Céline, même sexuellement, si j'ose dire, c'est un voyeur. C'est un homme qui était très beau, qui a connu pas mal de femmes, qui a eu des liaisons, mais très vite, la consommation s'interrompait, et ce qu'il aimait, c'est voir. Il était un observateur, et donc un clinicien au sens symptomatique exceptionnel. Et je crois que c'est fondamental chez le romancier, et chez le médecin, et vous l'avez très justement souligné, et ça je ne peux évidemment que souscrire à cela. Je crois que la vocation médicale, c'est l'obsession de la souffrance. Je crois que c'est ça. Et essentiellement, puisqu'encore une fois, c'est la guerre, c'est l'Afrique, on l'a bien souligné, c'est l'obsession de la souffrance. Et c'est ça qui crée cette vocation médicale, et en même temps, avec ce désespoir qui fait qu'il n'a pas trop d'illusions sur les remèdes à apporter. Donc on est dans la contradiction, obsédé par la souffrance et très désabusé par rapport à cette espérance que doit porter toujours un médecin.
Et tu as insisté sur les contradictions du personnage et aussi sur, tout de même, je dirais, une déviance presque psychiatrique. Tu as parlé d'une tendance délirante, mais il y a aussi une tendance paranoïaque qui, les lettres de Apparas, par exemple, sont truffées d'insultes contre tout le monde. Enfin, il était persécuté absolument contre tout le monde, il était d'une violence extrême, et j'ai connu aussi quelques témoins. Jeanne Voilier, qui dirigeait De Noël, était accablée de protestations, mais Gallimard aussi. Merci. Et j'ai connu aussi à l'opposé très bien Arletty. Et Arletty décrivait à Meudon, là où tu as la gentillesse de m'emmener, où j'ai pu connaître sa maison, la pièce où il est mort, des choses très émouvantes. Arletty disait qu'à Meudon, il était l'homme le plus courtois, presque distingué, même très distingué dans ses haillons, et que c'était un autre personnage. Tu as aussi cette perception.
Il y a ce sentiment, c'est toujours le paradoxe, Céline, j'irais presque aristocratique. Quand il était jeune, il signait Louis Destouches en deux mots, en prétendant que sa famille était, liée au chevalier Destouches de la Révolution française. Et de notre côté, on a le Céline de Courbevoie, le Céline populaire. Et d'ailleurs, son amitié avec Arletty est venue de là, de cette complicité de ces deux individus qui étaient nés tous les deux à Courbevoie. Donc, je pense en effet qu'il y a cette profonde élégance de Céline. Et c'est mais pareil dans le style. D'un côté, on s'en est rendu compte par les lectures qui ont été faites, un Céline qui semble utiliser, pour s'exprimer, un langage qui s'inspire de l'argot, mais qui n'est pas de l'argot, et d'un autre côté, un Céline précieux. C'est un style des plus raffinés, des plus subtils, des plus précieux qui soient. Et c'est très curieux parce que après Voyage au bout de la nuit, son deuxième livre qui s'appelle Mort à crédit, qui va sortir en mai 1936 et qui est accueilli, à la différence de Voyage au bout de la nuit, de manière extrêmement dure, violente, haineuse par la critique, les deux types de critiques qu'il reçoit, c'est d'un côté, c'est une littérature d'égout, un langage de Vespasienne, c'est à peu près ce qui est dit par certains. Et on lui reproche aussi des procédés spécieux, précieux, raffinés, etc. Et je crois que cette préciosité et cette grossièreté, cette âpreté dans le convulsif et en même temps cette élégance ont fait de Céline probablement, et c'est peut-être ce sur quoi il insistait dans le premier enregistrement assez peu audible, et je le regrette, que nous avons entendu, on entend Céline se contredire lui-même du reste, en disant « Oh ben le roman, disait-il en substance, je ne sais pas si vous avez tous bien entendu, le roman a perdu, et ce n'est pas faux, sa vocation, je dirais, naturaliste, sa vocation d'apprendre au lecteur ce que c'est que la vie d'un médecin de campagne avec Balzac, ce que c'est que la vie d'une mine avec Zola, etc. Et donc, ce qui reste, c'est le style. Alors, bien entendu, il faut faire la part des choses. Si Céline, après la guerre, dit « Je suis un écrivain à style, je ne suis pas un écrivain à idée, je suis un écrivain à image et à style », c'est une manière aussi pour lui, il faut être bien conscient de cela, auprès des journalistes qui vont l'interviewer dans les années 50, de se dédouaner des idées qu'il a eues. Hein, en disant « Mais non, je ne suis qu'un styliste ». Ça, il ne faut pas l'oublier. Mais en effet, ce qui reste de Céline, c'est un regard à la fois impitoyable dans la rigueur et dans la précision et totalement fou dans la construction grammaticale et dans les images qu'elles font surgir, qui est un langage totalement, par certains côtés, non pas de l'irréalité, parce qu'on est toujours dans le réel, mais du délire qui amplifie le réel.
Céline s'est lui-même résumé dans une pièce admirable que j'ai vue, qui est rarement donnée, c'est l'Église.
Oui.
L'Église où on commence, si vous voulez, dans le Céline, je dirais, du début du voyage au bout de la nuit, et on termine avec les danseuses sous ce comptoir, et c'est un texte absolument admirable, et je trouve que Céline lui-même s'est résumé totalement et admirablement dans cette pièce. Es-tu de cet avis ?
Oui, enfin, je dirais que c'est résumé en ce sens où l'Église est une pièce de théâtre que Céline a écrite à la fin des années 1920, début 1930, qui était au fond son premier essai littéraire ambitieux. Pièce qui n'arrive pas à monter, qui est par certains côtés mal construite, mais qui est admirable et merveilleuse par bien des aspects. Et l'échec de cette pièce, ou plutôt l'impossibilité qu'il a de la faire publier et a fortiori de la jouer, vont amener Céline à écrire Voyage au bout de la nuit, qui, à quelques épisodes près, où justement la danse n'apparaît plus ou quasiment plus, va être la première ébauche théâtrale. Mais là où Voyage au bout de la nuit est peut-être par son côté plus fort que l'Église, c'est que l'Église est une pièce remarquable, je suis entièrement d'accord avec Yves Pouliquen, mais c'est que dans le théâtre, il y a une forme d'objectivisation du monde, puisque ce sont des personnages porte-parole, alors que dans le roman célinien, dès Voyage au bout de la nuit, et ça ira en s'accroissant bien entendu avec les autres livres, ce qui est important, c'est aussi la voix, le je du narrateur qui prend à bras-le-corps la réalité, qui nous la fait voir à travers lui, qui l'amplifie, qui la déforme, qui la dissèque, qui l'examine au microscope et qui la fait délirer au télescope, si j'ose dire. Et c'est ce regard-là, ce regard subjectif du romancier qui va donner toute la complexité, toutes les contradictions, toute la richesse et tout ce sens de la misère, mais physique et je dirais presque et métaphysique aussi de Céline.
Vous venez d'entendre Frédéric Vitoux de l'Académie française. Il s'exprimait lors d'une communication à l'Académie nationale de médecine sur le thème de Céline, médecin et écrivain, une prise de parole qui a eu lieu dans le cadre de la journée du livre le 28 septembre 2007. Au cours de cette communication, vous avez pu entendre la voix de l'écrivain Céline ainsi qu'une lecture d'un extrait de Voyage au bout de la nuit par Michel Simon. Retrouvez également Frédéric Vitoux dans une émission en habit vert ou en compagnie d'Elisabeth Antebi. Il nous parle de Jacques Laurent et de Céline, ainsi que des chats auxquels il consacre l'un de ses deux prochains livres, Le Dictionnaire amoureux des chats. Merci de nous avoir suivis et à très vite pour de nouvelles émissions sur Canal Académie.